Bienvenue pour votre rendez-vous avec l'École Ferrandi Paris, un podcast d'inspiration sur les grandes problématiques de la restauration et de l'hospitalité. Tous les mois, experts, chefs, dirigeants, hôteliers, sommeliers, pâtissiers, designers ou encore professeurs échangent sur les innovations et les bonnes pratiques du secteur et partagent leur vision de l'hôtellerie-restauration de demain. Aujourd'hui au menu, à quand la fin du gaspillage alimentaire ? L'enjeu est tel que depuis 2020, l'ONU a instauré la Journée internationale de sensibilisation aux pertes et gaspillages de nourriture. C'est le 29 septembre. Alors, comment limiter ce gaspillage alimentaire chez soi, à la cantine, au restaurant ? Quels leviers actionner pour limiter le gaspillage ? Comment impliquer toute la filière agroalimentaire ? Comment moins jeter que faire des restes ? Voici quelques-unes des questions que nous allons aborder avec nos invités. Aujourd'hui, autour de la table, Faustine Calvarin, bonjour.
Bonjour.
Vous venez du secteur de l'agroalimentaire et il y a 5 ans, vous avez cofondé Bisque, B-E-E-S-K, premier distributeur français dédié au gaspillage. Vous créez un pont entre l'amont et la restauration collective et commerciale et grâce à cette plateforme de revente de produits moches de toutes sortes. Aujourd'hui, vous regroupez une quinzaine de collaborateurs, une centaine de partenaires producteurs et plus de 300 clients. Vous nous expliquerez tout ceci dans un instant. Anthony Denon est avec nous également. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef, vous êtes passé chez Jean-François Piège, Antoine Westermann chez Alain Ducasse aussi. Vous êtes passé aussi par l'auberge du Jeu de Paume à Chantilly. Et depuis un an, c'est bien ça, vous êtes le chef du restaurant étoilé de l'hôtel Burgundy à Paris. Et vous avez sorti il y a un an un livre chez Solar. Il en reste, astuces de chefs étoilés pour cuisiner ses restes. Avec nous également Nabil Zemouri, bonjour.
Bonjour.
Plus connu sous le nom de chef NZEM sur les réseaux sociaux pour vos recettes anti-gaspi. Vous êtes un autodidacte, même si vous êtes passé dans quelques belles cuisines, comme celle de Gilles Goujon, Olivier Belin ou encore Gérard Salé. Vous avez officié également au domaine de la Minotte dans les Yvelines. On les salue jusqu'à il y a quelques mois. Aujourd'hui, c'est depuis votre cuisine à Argenteuil que vos abonnés vous suivent. Ils sont... Peut-être que les chiffres ont bougé depuis, mais ils étaient il y a quelques jours 1,2 million sur TikTok, 400 000 sur YouTube, 600 000 sur Instagram. Vous nous direz un instant ce que vous leur partagez. Allez, pour débuter, je vous rappelle quelques chiffres. C'est toujours bon de savoir de quoi on parle. Les pertes et gaspillages alimentaires en France, c'est 10 millions de tonnes de produits par an, soit à peu près 16 milliards d'euros. À l'échelle d'un foyer, Faustine, vous m'arrêtez si j'ai des bêtises, on parle de 30 kilos par personne et par an de pertes et 7 kilos de déchets alimentaires non consommés encore emballés. Objectif en France pour 2025, réduire de moitié le gaspillage alimentaire. Faustine, vous pouvez nous rajouter, vous, d'autres chiffres, ceux qui se situent à la racine, en amont, le gaspillage qu'on voit moins finalement.
Oui, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, c'est un sujet encore très tabou, mais dans le gaspillage alimentaire, en réalité, plus de 53% a lieu en amont de la filière, c'est-à-dire chez les producteurs et les industriels. Donc, ça veut dire que c'est des produits qui viennent d'être fabriqués ou qui viennent d'être produits dans les champs, mais qui n'arriveront jamais sur le marché. Et donc, c'est l'équivalent de 14 000 tonnes par jour de denrées alimentaires qui, en fait, n'arriveront jamais dans la distribution française pour des petits défauts visuels mineurs.
Et c'est bien ça qui vous a fait prendre les choses en main. On va voir ça dans un instant. Et vous avez pris chacun autour de la table votre part de responsabilité. Mais comment vous avez été sensibilisé à ces questions de gaspillage alimentaire ? Justement, Faustine, je le disais tout à l'heure, avec le cofondateur de Bisque, vous avez... eu les yeux ouverts parce que vous étiez dans les coulisses des géants de l'agroalimentaire. C'est bien ça, vous avez vu comment ça se passait?
Tout à fait. En fait, moi, je suis une ancienne responsable qualité de l'agroalimentaire. Et donc, on a des métiers où on a des cahiers des charges de clients qui sont parfois extrêmement stricts. Et on va fabriquer des produits. Et s'il manque 2 grammes par-ci ou un ton de couleur par-là, c'est des milliers de pièces qu'on va écarter juste pour des questions visuelles.
Donc, pour être sûr de bien comprendre ce choix d'habit là qui reste quoi, pour être sûr de bien comprendre, c'est... au niveau des grands distributeurs, au niveau même des restaurations collectives, tout doit être calibré. Tous les produits doivent être calibrés. Et s'ils ne passent pas le calibrage, ils sont mis de côté.
Tout à fait. En fait, on parle vraiment de produits qui, encore une fois, c'est la définition du gaspillage. C'est des produits qui sont consommables, mais qui n'arriveront jamais dans nos assiettes. Donc, on parle de défauts visuels, c'est-à-dire 3 grammes qui manquent par-ci, un fromage qui n'est pas tout à fait rond, un moelleux au chocolat,
une carotte totalement tarabiscotée. C'est juste une carotte qui ne va pas être tout à fait droite.
Tout à fait, ou auquel il va y avoir un petit point noir ou il va manquer 5 cm en bas. En réalité, le cliché, c'est que ces produits-là ne sont pas plus difficiles à cuisiner.
Mmh. Très bien, on va revenir dessus tout à l'heure. Anthony, vous me disiez quand on préparait ce podcast, finalement, un petit peu l'école, la plus grande école du respect, c'est chez Alain Ducasse. C'est là vraiment que vous avez été sensibilisé.
Oui, parce que j'ai eu la chance d'être formé par Alain Ducasse, donc à la philosophie du goût. Donc, on fait pas vraiment attention au visuel de ce qu'on reçoit, mais plutôt au goût. C'est-à-dire qu'on nous apprend à cuisiner, à respecter ce qui est autour de nous. Donc, à partir de là, pour moi, c'est devenu très simple de continuer à faire ce genre de cuisine. La cuisine qui va au plus près du goût et au plus près des producteurs.
Mmh. Et on prend le meilleur.
On prend toujours le meilleur.
C'est ça. Donc, il n'y a pas de gaspillage.
Non, il n'y a pas de gaspillage parce que si on sélectionne bien les produits chez la bonne personne en qui on a vraiment confiance, forcément, il y a du goût. Forcément, il y a eu un respect avant. Donc, pour nous, c'est plus facile de cuisiner après.
Mmh. Nabil, pour vous, la grande école, c'est votre maman ?
Ma grande école, effectivement, c'est ma maman qui m'a déjà sensibilisé très tôt au gaspillage alimentaire. On était une fratrie assez nombreuse et forcément, les plats de la veille se transformaient en plats du jour. Il fallait user d'ingéniosité et d'astuces pour pas qu'on reconnaisse les plats de la veille, nous, quand nous étions enfants. Et puis après, quand je suis passé par les plus grands chefs que vous citiez tout à l'heure, bah, c'est vrai qu'on a appris des techniques qu'on a modernisées. Et moi, j'ai continué sur ce credo.
Mais est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de l'école de maman qu'on fait avec c'était quoi par exemple,
vous saviez,
qu'est-ce qui vous a marqué
alors avant qu'aujourd'hui on limite la consommation de viande et qu'on passe de plus en plus sur des assiettes végétales, des assiettes sans protéines, on utilisait presque de la viande tous les jours, sauf que certains revenus ne permettent pas d'acheter de la viande ou du poisson tous les jours. Donc quand on en utilisait la veille et qu'il en restait, qui était déjà cuite, on sait que c'est difficile de réchauffer une viande cuite, elle est toute sèche, voilà. Donc ma mère, elle prenait cette viande, elle la mixait avec un petit peu d'œuf, un peu de pain de mie mouillé ou trempé dans du lait ou dans de l'eau, et elle faisait des burgers avec. Cette viande se transformait en steak de burger, voilà, donc, ou des boulettes qu'on mettait dans les... Voilà, donc c'est pas forcément de la cuisine étoilée, mais c'est de la cuisine astucieuse, ingénieuse, et... En grandissant avec ça, on s'en imprègne et on essaye d'aller plus loin.
Justement, c'est pour ça que je vous ai réunis avec vos profils différents aujourd'hui, parce qu'on va voir que le gaspillage, de toute façon, on doit le faire à tous les niveaux, que ce soit dans notre cuisine jusqu'au plus grand chef étoilé. Donc, les uns et les autres, vous avez des astuces, des pistes pour éviter ce gaspillage. Alors justement, Faustine, vous nous avez un peu raconté pourquoi était né Bisque. Comment ça marche très concrètement? Vous dites finalement, vous luttez, je reprends vos termes, contre le délit de sale gueule. Donc, très concrètement, qu'est-ce que vous faites? À quel moment vous intervenez et à qui ça s'adresse?
Alors, en fait, j'aime bien le résumer comme ça, mais j'ai rien inventé. J'ai juste mis un peu de bon sens dans la façon de faire, c'est-à-dire qu'on a créé un distributeur alimentaire dédié à la lutte contre le gaspillage à destination des chefs de la restauration, que ce soit collectif, que ce soit commercial, les indépendants, l'hôtellerie, etc. Donc, c'est très simple. En fait, sur tout le territoire français, on va aller en fait acheter aux producteurs et aux industriels tous les produits qui sont, encore une fois, refusés par les circuits classiques, qui viennent d'être produits, qui ne répondent pas au cahier des charges, on met de côté, on ne sait pas quoi en faire. Donc aujourd'hui, on commence à être connu, donc le bouche à oreille fonctionne très bien, mais on va nous proposer ces produits et nous, on va acheter ces produits. On va les acheter en grand volume, hein, parce qu'aujourd'hui, les industriels ont besoin de sortir des gros volumes, ils ne peuvent pas faire du carton au carton. On a des plateformes logistiques en France, on stocke ces produits et on a un catalogue en ligne pour les chefs à 80% récurrent sur lequel, en fait, on va mettre tous ces produits disponibles. Et donc, les chefs vont passer commande comme n'importe quel autre fournisseur. Et moi, je vais leur livrer ces produits avec toutes les filières, poissons, viande, fruits, légumes, fromage, traiteurs, salés sucrés, etc., à la porte de leur restaurant. Donc, les mêmes codes de distribution. Par contre, mon sourcing à moi, c'est 100% anti-gaspillage.
Même si on a chef avec un petit restaurant d'une vingtaine de places, ça marche aussi ou vaut mieux quand même avoir une certaine taille?
Effectivement, aujourd'hui, il y a un enjeu logistique et transport qui fait qu'on adresse des sites à partir de 80 couverts par jour. Ils peuvent largement en fait, intégrer un fournisseur supplémentaire puisqu'aujourd'hui, on n'a pas vocation à remplacer 100% les distributeurs actuels, mais intégrer 5 à 10% d'achats anti-gaspi dans son restaurant, c'est déjà avoir un impact énorme sur la filière alimentaire.
C'est moins cher du coup pour les chefs?
Il y a un réel intérêt économique. C'est pour ça que l'anti-gaspi a tout son... C'est un réel enjeu de la restauration de demain. C'est des excellents produits, souvent sous label, qui aujourd'hui sont jetés, qui en plus sont proposés à des prix très intéressants.
Et en plus, vous faites un petit bilan d'impact tous les 6 mois aux clients. Vous connaissiez, Anthony, ce genre d'initiative?
Pas du tout.
Ça va changer. Désormais, vous allez peut-être réfléchir à la chose, non ?
Oui, mais après, c'est délicat parce que moi, ma façon de faire, elle est beaucoup plus proche des producteurs. C'est-à-dire que je ne vais pas acheter beaucoup. Moi, j'achète très peu, assez souvent, et je suis assez fidèle avec mon producteur. Donc, c'est vrai que j'ai un peu mes têtes que je préfère et je vais vraiment chez eux sélectionner les produits. C'est un autre travail.
Oui, c'est intéressant. Vous êtes directement aller voir les producteurs. Donc, effectivement, il y a moins cette question de calibre. Et ce que vous me disiez, parce que c'est vrai qu'on a vu pendant pas mal d'années, enfin, et aujourd'hui encore, cuisine de marché. En gros, le chef raconte qu'il cuisine ce qu'il a trouvé peu ou prou le matin sur le marché. Vous, votre idée, c'est pas ça. Si on commence dans les conseils, trucs et astuces anti-gaspi, on va commencer par ça. L'idée, c'est de se dire, il faut prévoir. Anticiper.
Oui, parce que alors moi, ma brigade est assez jeune. Aujourd'hui, je veux pas leur mettre plus de pression que ça. Donc, c'est-à-dire que on choisit bien en amont. C'est les produits que je peux garder parce que je les ai vraiment bien choisis. Et je sais que chaque matin, dès qu'ils arrivent, ils ont déjà leur petit panier prêt. C'est-à-dire qu'ils vont en bas, ils sont pas stressés, tout est déjà prêt. Donc, pour moi, c'est la meilleure façon aujourd'hui de les préserver, de pas jeter, parce qu'avec le stress, on sait qu'on fait des fois un peu n'importe quoi. En tout cas, moi, c'est ma manière aussi d'assurer l'anti-gaspi.
Et de prendre les meilleurs produits, parce que plus le produit est bon, moins il y a à jeter.
Oui, parce que moi, j'ai confiance en producteur. Donc, pour moi, le produit, il est magnifique. Et dans ma façon de faire de cuisine aujourd'hui, qui est très végétale, j'utilise 350% de ce que j'achète. Même je vais plus loin.
Il va falloir vous expliquer comment.
Non, mais parce qu'aujourd'hui, je sais que je propose du végétal, donc il faut que l'expérience soit totale. Donc, je vais vraiment à fond dedans. Si je vous propose une garniture de carottes, il y a 7, 8, 10 façons de la déguster dans la même assiette. Donc aujourd'hui, c'est mon travail. Donc c'est pour ça que je fais attention à tout ce qu'on utilise et ce qu'on ne jette plus.
Alors on viendra aux recettes tout à l'heure. Vous allez continuer à nous allécher un petit peu comme ça, tous les deux, les chefs. Mais du coup, on peut se l'appliquer, ce que vous nous dites là, on peut se l'appliquer aussi à domicile. C'est le fameux batch cooking.
Oui, alors pour moi, c'est vrai qu'après réflexion et en écrivant mon livre, c'est vrai que pour moi, si on prend un peu plus de temps à acheter correctement et à aller au plus vite, ce qu'on appelle au plus vite aujourd'hui, pour moi, on va mieux acheter le produit, on va pouvoir le transformer de plusieurs façons. Et aujourd'hui, on va pouvoir passer un peu plus de temps en famille pour préparer la semaine. Et je suis sûr qu'avec ça, on va gagner de l'argent, du temps et de la bonne qualité de cuisine.
Voilà, un des conseils anti-gaspi, effectivement. Comment vous appliquez cette discipline au Burgundy ?
En étant là au quotidien ? Non, c'est un état d'esprit, en fait.
Par exemple, le pain.
Oui.
C'est un gros sujet. Hein. Je vous vois tous chez opiné du chef. Le pain, qu'est-ce qu'on fait ?
Alors le pain, nous, on commande 30% de moins de ce qu'il y a de clients, par exemple, dans l'hôtel. Je ne parle pas du restaurant, mais je parle vraiment de l'hôtel parce que c'est assez conséquent. Et on a toujours, nous, on travaille avec un boulanger qui nous fait des produits pré-poussés. Et on sait que si on manque...
Pré-poussé, ça veut dire pré-cuit ?
Non, il est poussé, il est prêt à mettre au four.
Prêt à mettre
au four, on va dire pré-cuit pour que tout le monde comprenne. Ouais. Et comme ça, nous, on peut... vraiment gérer les stocks et ne pas jeter de pain parce qu'un coup que le pain il est cuit, vous savez que ça finit généralement à la poubelle. Donc nous on a travaillé comme ça, surtout pour le petit déjeuner qui est une masse de viennoiserie de pain. Donc nous on commence comme ça, c'est un travail qu'on a fait depuis Chevaux au Burgundy depuis un an. On a des résultats, mais ça demande un peu plus de logistique.
Et puis il ne faut pas avoir une carte trop longue, il faut bien réfléchir à ça. Nabil, on va revenir à vos recettes et à vos conseils que vous donnez sur les réseaux sociaux, mais vous êtes aussi justement consultant en cuisine et vous aidez à créer des cartes de restaurants avec cette idée en tête.
Exactement, c'est-à-dire que les restaurateurs font appel à moi, des fois pour créer la carte dans son entièreté, des fois juste pour remettre au goût du jour, intégrer une démarche anti-gaspi. Et comme ça permet de gérer leur stock, gérer leurs dépenses. Puis il y a forcément un intérêt pour la planète, mais il y a aussi un intérêt gustatif. Donc l'anti-gaspi, il faut savoir que c'est, comme je le disais, bon pour la planète, bon pour le portefeuille, mais c'est très très bon aussi à consommer, quand il est bien traité.
Donc comment vous faites pour optimiser ces cartes, justement, avec cette idée en
tête ? Ça rejoint ce que disait notre cher ami, c'est par exemple le pain. Quand il est cuit, il est très difficile après d'en faire quelque chose, de le proposer. Donc, ce que je propose, je prends l'exemple du pain, mais il n'est pas... Moi, il y a 9 ans, quand j'étais au restaurant, j'avais créé un dessert à base de pain, une glace au pain avec un croûton de pain, un caramel de pain. Donc, tout était autour du pain. Je ne vais pas forcément donner la même recette aux restaurateurs qui ne vont pas l'intégrer forcément tous à leur carte, mais je travaille dans cette philosophie.
Dans cette optique-là,
on a ce produit-là, il est déjà prêt. Qu'est-ce qu'on peut en faire ? Surtout pour ceux qui, par exemple, ont une carte brunch. On a des produits toute la semaine. On va utiliser, je ne sais pas, un chou-fleur. Dans la semaine, le blanc de chou-fleur. Il nous reste du vert de chou-fleur. Qu'est-ce qu'on fait avec ce vert de chou-fleur ? Sachant qu'il est exploitable. sachant qu'il est comestible et sachant qu'il est très bon.
Oui, c'est ça. Il y a un peu de pédagogie. Ça nous amène aux recettes anti-gaspé. C'est qu'il y a de la pédagogie à faire pour dire, ben voilà, en fait, tout ceci, comme Faustine, vous nous racontiez, c'est pas parce qu'il y a plein d'idées préconçues, mais ce qui ne passe pas le calibrage, eh bien, les mêmes exigences sanitaires et aussi facile à travailler. De même, il y a plein de choses qu'on peut utiliser. Alors, le plus connu, c'est les fans de carottes, mais enfin, voilà, le verre du chou-fleur. Et c'est là qu'on a besoin de vous. Oui. C'est là qu'on a besoin de gens comme vous, Nabil. Qu'est-ce qui marche le mieux parmi vos postes? Qu'est-ce qui a mieux fonctionné que vous pourriez nous partager là?
Alors, il y a deux aspects sur l'anti-gaspi. Il y a travailler un produit dans son entièreté. On parle des épluchures, on parle des racines, on parle de certaines choses. Et réutiliser les restes qui ont été déjà cuits. Donc, c'est deux aspects de l'anti-gaspi à aborder. Et moi, je traite les deux. On va avoir des légumes qui sont déjà cuits, par exemple. Et je vais les transformer en cordon bleu pour faire apprécier les légumes aux enfants. Donc, c'est des légumes qu'on a trouvés dans une jardinière, dans un plat de, voilà, avec des carottes, des pommes de terre. L'idée, c'est de les écraser, les aplatir un petit peu à l'emporte-pièce et à l'intérieur, y farcir, y mettre notre farce, jambon, fromage, recouvrir avec cet écrasé de légumes. Ça peut être n'importe lequel légume, j'ai montré la méthode. Et on a un cordon bleu. Tout simplement, on passe au congélateur quand même un petit peu, histoire de le durcir un petit peu, et on le panne. Et là, on a un cordon bleu, donc ça, c'est un petit peu ludique, c'est très facile, hein, rien de compliqué à faire. Et par exemple, j'utilisais tout à l'heure le verre de chou-fleur.
Oui.
J'en ai fait un curry vert aux influences thaïlandaises,
oui.
Parce que le verre de chou-fleur, disons-le nous, c'est quelque chose qu'on jette très régulièrement dans les foyers.
Catastrophique.
Mis à part les chefs, bien évidemment, et les personnes qui sont au courant, qui savent qu'il est comestible et qui savent comment le traiter. Mais voilà, donc les gens ne savent pas forcément. Le verre de chou-fleur, il est blanchi dans une eau, dans une anglaise, hein, c'est-à-dire de l'eau salée, refroidie pour conserver le verre. Et ensuite, sauter avec une petite huile torréfiée avec quelques épices. Et puis c'est bon, on a un curry vert de chou-fleur.
Ah, ça me fait saliver ça, Faustine, non?
Attention, il faut rajouter quelque chose, hein, quand même,
un peu
de protéines et tout ça.
Très admiratif de ce métier, qui n'est pas du tout le mien, mais je trouve ça incroyable.
Et moi, au contraire, je suis très admiratif de la démarche. Je me demande même comment ça ne pouvait...
Comment personne n'y a pensé avant.
Comment on n'y a pas pensé avant, mais je n'étais même
d'accord.
Pas au courant des pertes.
Oui.
C'est colossal. Moi, 50% en amont, moi, je pensais que c'était... Je ne m'attendais pas à ça. Je ne sais pas si...
Non, c'est vrai que ça choque.
C'est juste impressionnant.
C'est bien. Continuons à faire passer le message. Allez, vous nous avez ouvert l'appétit, Nabil. Alors, on est bien d'accord. Pour vous, vous dites que c'est de la cuisine accessible de tous les jours. Vous êtes dans votre cuisine et c'est vraiment ça. C'est rapide, c'est efficace. Les posts sur l'avocat trop mûr dont on ne sait que faire ou la banane trop mûre, ça cartonne parce qu'on en a tous à un moment donné. Mais Anthony, dans votre ouvrage, on est sur une démarche un petit peu différente. Vous avez créé des recettes qui sont pas très compliquées non plus, qui sont peut-être un petit peu plus complexes. Mais l'idée n'est pas de prendre que des restes, mais d'avoir 80% de produits bruts plus quelques restes du lendemain. C'est bien ça le concept?
Oui, parce que je ne voulais pas des livres anti-gaspi. Il y en a 150 millions qui sont sortis. Donc, quand on m'a proposé
plus
ce projet...
Plus les réseaux sociaux.
Exactement.
Plus le mien.
Non, c'est vrai. Et je voulais, en tant que chef, je me suis dit, si je voulais faire un livre différent, il fallait que j'aille chez monsieur et madame tout le monde. Donc, je suis rentré dans les foyers, chez des amis et même dans mon propre frigo. Et je me suis dit, voilà, j'ai des choses qui sont en train de faner, j'ai des choses qui ne sont pas très belles, j'ai des choses que les gens jettent au quotidien. Donc, je me suis dit, voilà, il faut que je fasse des créations de recettes. Des choses assez un peu street food, un peu voilà, de mélanger un peu tous les styles, et vraiment d'avoir des créations de recettes et surtout beaucoup de conseils et surtout un livre accessible où chacun peut modifier la recette en fonction de qui il est et de ce qu'il veut faire.
Alors ça donne des choses très agréable, notamment les salades et les herbes pour condiments d'apéro. Ça, c'est un truc qu'on a toujours, toutes les herbes qui nous restent dans le bas du frigo. Vous pourrez regarder dans cet ouvrage. Effectivement, il y a plein d'idées. Et le début de l'ouvrage est avec les sauces et bouillons. Ça, c'est quelque chose... On sait que c'est bien de faire des sauces et des bouillons, que ça permet de récupérer pas mal de choses, mais ça prend du temps quand même. C'est ce que vous disiez tout à l'heure.
Oui, ça prend du temps. Et forcément, on reviendra toujours à ce problème de temps. Aujourd'hui, si on veut économiser, si on veut bien cuisiner, si on veut bien manger, si on veut bien vivre, il faut prendre le temps. Oui, forcément, il fallait des recettes pas au-dessus de 30 minutes, parce qu'au-dessus de 30 minutes, généralement, les gens, ils débloquent. Mais il fallait trouver des choses qui interpellent. C'est-à-dire que faire un bouillon, dans le temps, nos anciens mangeaient des soupers. C'est quelque chose qui disparaît. Et alors qu'avec le reste des os, le reste des carcasses, le reste de plein de choses, des épluchures, on peut se faire un souper le dimanche et c'est très bon. Mm-hmm. Et surtout, ça coûte 0 euro.
Ouais. Donc voilà, déjà, messieurs, dames, que ce soit dans votre cuisine, dans votre restaurant, il y a déjà quelques pistes là pour continuer, parce que j'imagine que personne ne découvre qu'il ne faut pas gaspiller aujourd'hui. Enfin, j'ose espérer, en tout cas. Mais... Les petits ruisseaux font les grandes rivières, les grands fleuves, comme on dit Faustine. La prise de conscience, on sent qu'elle est là. Mais chacun à votre niveau, finalement, c'est une petite goutte d'eau dans l'océan. On redonnait les chiffres tout à l'heure. Quelles sont les prochaines étapes pour vous et plus globalement, parce que je sais que vous voyez aussi plus grand que Bisque.
C'est vrai que moi, quand j'ai lancé Bisque, effectivement, j'avais une idée de développement d'entreprise. Et aujourd'hui, j'ai pris un côté très militant parce que quand on reçoit des mails tous les jours de producteurs en difficulté ou d'entreprises françaises en difficulté, c'est toujours très lourd à porter. Aujourd'hui, nous, je dirais, l'ambition en tout cas pour Bisque, c'est de pouvoir en fait proposer à... L'idée, c'est de pouvoir dire que tous les chefs en France ont la capacité de pouvoir s'engager dans l'anti-gaspillage et d'avoir l'outil pour le faire. Et c'est là où nous, on se déploie pour pouvoir être capable de proposer cette solution. L'étape d'après, mais je dirais que la France s'engage. On est quand même très avancé sur l'anti-gaspillage en Europe aussi. Hein. L'UE vient encore de s'engager il y a quelques semaines. Donc, effectivement, je pense qu'on passe ces étapes et qu'il y a même un label anti-gaspillage national pour la restauration qui va sortir l'année prochaine, qui va permettre en fait aux chefs de valoriser cette démarche. Et je pense que quand on rentre dans la valorisation, ça aide à s'engager sans avoir à passer par la réglementation. Donc très clairement, je pense que d'ici un an ou deux, même si on est déjà dans une belle vague, on a un virage qui va être pris.
Parfait, on avance tous ensemble. Merci beaucoup. On rappelle donc Bisque, pour ceux qui veulent faire appel à vous, c'est B-E-S-K, que ce soit des producteurs ou dans la restauration collective aussi. On n'en a pas eu le temps d'en parler aujourd'hui, mais très important parce que, enfin, même s'ils font déjà presque tous partie de vos clients, mais c'est vrai que là, il y a pas mal de travail aussi sur ces sujets-là. Pour les recettes de chef NZEM, eh ben, c'est sur les réseaux sociaux, tous les réseaux sociaux. N, c'est la lettre N. Merci beaucoup, Nabil, d'avoir été avec nous. Et le Burgundy, vous redonnez l'adresse peut-être, Anthony?
6-8 rue Dufaux, dans le premier arrondissement.
Et le titre de votre ouvrage, je vais le redonner.
Il en reste.
Il en reste, oui, voilà. Si on ne va pas jusqu'au bout, c'est il en reste. Il en reste des livres.
Exactement.
Il en reste, parfait. Merci beaucoup à vous. C'est vrai qu'en préparant cette émission, j'ai vu qu'il y avait déjà pas mal d'initiatives. Certains ont même été récompensés de la clé verte Michelin, justement déjà pour les démarches anti-gaspille. Il y a pas mal de choses. Des restaurants comme Réseau, Ma Paris, Ruche, à Gambet, dans les Yvelines. Enfin voilà, je pense qu'il y en a plein autour de vous. Renseignez-vous aussi et allez découvrir cette cuisine parce qu'en général, c'est vraiment des chefs qui ont de vraies convictions et qui savent faire. Merci beaucoup à tous les trois. Merci aux équipes Ferrandi et Étienne Blanchard pour la réalisation. À bientôt, ou plutôt à demain, pour un nouvel épisode qui fera dialoguer mixologie et gastronomie.